Alors on est à la pointe d'Andoum, à Malmousque. Alors on va se déplacer de quelques mètres et aller à la station marine d'Andoum, à quelques centaines de mètres seulement de la plage, où là il y a une équipe d'une centaine de chercheurs qui se consacrent depuis maintenant plus d'un siècle à l'étude de la vie sous-marine et de la biologie marine.
C'est quoi ça?
Alors ça c'est le quatrième bâtiment du laboratoire, quatrième bâtiment du centre d'océanologie.
Ok, on va à la calanque?
On descend par là, donc il faut ne pas se tromper dans le code.
Voilà. Merci. Alors voilà la calanque.
Voilà, c'est tout petit. Et donc là, le panneau vous indique qu'il s'agit bien du domaine d'État, etc. C'est une réserve marine depuis 1961. C'est la seule partie en réserve de toute la rade de Marseille. Et ça a été possible donc de par la présence de la station marine. En fait, elle est représentative d'une certaine façon de ce qui se passe un peu dans la baie de Marseille.
Donc de l'ensemble de la flore et de la faune sous-marine.
Une bonne partie.
On s'avance?
Oui.
Cette digue en béton, elle servait à quoi?
Ben là, elle a un rôle de protection déjà des bâtiments. Et puis, je pense qu'à une certaine époque, elle devait servir aussi à accoster pour certains bateaux. Mais maintenant, les bateaux ne viennent plus ou extrêmement rarement. Il y a quand même des manips qui sont faits dans la calanque. Des élevages in situ qui sont faits dans la calanque, des sortes de réserves de matériel vivant. Et donc là, évidemment, on part d'ici.
Alors des réserves de quels animaux, quelles espèces?
Des éponges en particulier.
Alors par la fenêtre de votre bureau, on aperçoit l'île Maire, la pointe des Goudes, Calelongue. On est en fait à peu près au centre géographique de Marseille. Et on est aussi dans un endroit qui est important du point de vue symbolique et intellectuel, puisque ce centre d'océanologie marine réunit 90 chercheurs, c'est à peu près ça.
Le centre lui-même, ce qu'on appelle centre d'océanologie, rassemble plus de 200 personnes. Mais notre unité ici, ça dépend du nombre de thésards et de postdoctorants, mais disons entre 60 et 70 personnes. Et à la station marine d'Andoum, avec les gens, quelques personnes d'autres unités, les gens de passage et puis les services, il y a une bonne centaine de personnes à la station marine d'Andoum elle-même. Ça fait 120 ans que la station marine d'Andoum existe, parce que le COM, lui, n'existe que depuis la moitié des années 80. C'est-à-dire que au départ, ça a été la station marine, un laboratoire marin comme il y en a en France, comme il y en a en Europe. Il y a 75 laboratoires comme la station marine sur les côtes d'Europe, qui sont dans des états différents. Ça dépend des volontés politiques des différents pays. Mais disons que les grands pays actuellement ont plutôt tendance à faire des stations marines qui tiennent la route, qui sont véritablement des laboratoires très très modernes. Il faut quand même, pour revenir à Marseille, qu'il y a 120 ans, M. Marion, qui a été le créateur de cet établissement, il a déjà eu beaucoup de mal déjà pour le... Bien qu'il ait eu de temps en temps des soutiens très forts, politiques, il a eu énormément de mal à monter ce laboratoire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dès le départ à Marseille, l'idée de cette station marine était de travailler en relation avec des professionnels. Il s'intéressait beaucoup à la pêche, à l'aquaculture, à des tas de choses qui sont véritablement, qui ont besoin de recherche fondamentale, mais qui... L'idée, c'était quand même que ça devait être lié à quelque chose de très, très pratique.
Donc Jean-Pierre Ferral, vous êtes directeur de l'unité mixte de recherche qui s'appelle DIMAR. Est-ce que vous voulez bien me dire encore une fois ce que veut dire DIMAR? Je crois que j'ai oublié à nouveau.
C'est diversité, évolution et écologie fonctionnelle marine. C'est-à-dire que ça représente les trois aspects principaux et dans quel cadre on travaille. Hein. Diversité, parce que c'est l'objet de nos études. Évolution, ça c'est le cadre théorique, hein, puisque nous sommes tous des évolutionnistes, hein, dans ce laboratoire. Écologie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on dépasse de beaucoup le côté descriptif des milieux, mais qu'on essaye de comprendre les mécanismes et comment tout ça fonctionne. Et le but, évidemment, qu'on cherche tous à atteindre, c'est d'être prédictif. Hein? Alors, par exemple, face à des pressions qui peuvent être d'origine humaine ou d'origine naturelle. Hein? Alors, et puis le fameux changement climatique qui, lui, va être en couche au-dessus de toutes ces perturbations, hein? Que ce soit le bétonnage de la côte, les polluants qui arrivent, des espèces invasives, ou quel que soit le type de perturbation qu'on va prendre en compte. Maintenant, il faut tenir compte en plus des effets du changement climatique qui, lui, va s'ajouter à tout ça de toute façon. Et la difficulté, ça va être de débrouiller un peu les signaux entre qu'est-ce qui est dû à telle perturbation et puis qu'est-ce qui est dû au changement climatique lui-même. Hein, donc ça devient en définitive de plus en plus complexe.
Alors parmi les sujets de recherche du centre d'océanologie qu'on va aborder un petit peu l'un après l'autre au cours de cette émission, il y en a un qui dépend directement de l'endroit où on est situé et du fait qu'on est ici donc, dans la baie de Marseille, d'une part, et d'autre part pas loin des Bouches du Rhône, qui est un des plus gros fleuves de la Méditerranée occidentale. Mais il y a en particulier un domaine de recherche sur lequel vous avez travaillé, Jean-Pierre Ferral, et qui consiste à voir quelle est l'interaction entre le Rhône, en particulier le débit du Rhône, et la faune de la baie de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ?
Oui, enfin, c'est une de nos équipes, effectivement, travaille sur ce problème. À l'origine, c'était de voir ce que pouvait devenir la matière organique donc d'origine terrestre, hein, qui est charriée par le Rhône jusqu'à la mer. Qu'est-ce qu'elle devenait et quel était son impact, hein, donc, c'est-à-dire les relations entre le bassin versant, hein, d'un grand fleuve comme le Rhône et le milieu côtier. Et pour cela, bon, plusieurs techniques, dont certaines assez sophistiquées, ont été utilisées, qui permettaient de tracer l'origine de cette matière organique dans les tissus des animaux. Et c'est ainsi que les membres de cette équipe se sont aperçus que des annélides, hein, des vers qui vivent dans le sédiment, étaient favorisés par la présence de cette matière organique d'origine terrestre, hein, pas du tout d'origine marine. Et comme ces animaux étaient les proies privilégiées de poissons plats comme les soles, d'abord juvéniles, puis d'autres espèces plus grosses étaient également les proies des adultes, on s'est rendu compte en fait que toutes les populations de poissons plats, non seulement de Marseille, mais du golfe du Lion, dépendaient en quelque sorte de cette matière organique d'origine terrestre qui venait du Rhône. Alors il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits là-dessus, qui ont donné lieu à des publications, et il y a une thèse en particulier qui a permis de montrer que en mesurant le débit du Rhône, on allait avoir la possibilité de prédire un petit peu ce qui allait se passer en mer. Alors quelle est la relation entre le débit du Rhône, hein, et ce qui va se passer en mer ? Bien, le débit du Rhône, il va changer en fonction des crues qu'il va y avoir dans le fleuve. Quand il y a cru, le Rhône sort de son lit et va laver, on va dire, des terrains différents selon l'endroit où se passe la crue, selon l'étendue de la crue. Et il va ramener, quand l'eau va revenir dans le lit du Rhône, ça va ramener de la matière organique d'origine différente, de composition différente, qui va finir par arriver en mer. Et donc, il y a une relation entre le débit et tous ces phénomènes. Et donc, la mesure du débit indique, en quelque sorte, ce qui a pu se passer en amont. Il y a pu y avoir une relation faite entre les populations de sol, le devenir de ces populations et les pêcheries de sol. Hein, donc, fonction quasiment directement du débit du Rhône. Et un modèle est sorti capable de prédire à peu près à 5 ans ce qu'allaient pouvoir être les pêcheries en poisson plat dans tout le golfe du Lion. C'est-à-dire, on voit comme ça que d'une recherche très très fondamentale, hein, sur origine de la matière organique et type de matière organique, on a débouché en définitive en quelques années sur quelque chose d'extrêmement pratique.
Alors Jean-Pierre Ferral, outre cette découverte sur le lien entre le débit du Rhône et la population de saules dans la baie de Marseille, quelles ont été, comme ça, en quelques mots, les découvertes marquantes qui ont été réalisées ici, au COM d'Andoum ?
Elles sont à plusieurs niveaux. Hein. Par exemple, si on considère les éponges, on a trouvé des éponges carnivores, hein, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça, c'est sûrement Jean Vasselet vous en parlera. Toujours en concernant les éponges, on a trouvé que ce n'était pas un embranchement unique comme on pensait avant, mais qu'il s'agissait de plusieurs embranchements. Donc au XXIe siècle, trouver un nouveau phylum, pour utiliser le mot savant, c'est quand même assez extraordinaire. On s'aperçoit aussi, puisqu'on fait beaucoup de biologie moléculaire ici, que des espèces qui semblaient très simples sont en fait des complexes d'espèces, c'est-à-dire qu'on découvre des espèces cachées, qu'on appelle cryptiques, grâce aux techniques de biologie moléculaire. La présence de grottes froides dans la région de Marseille permet en fait de travailler presque quasiment en milieu abyssal en plongeant à 20 mètres en scaphandre autonome. Et donc là, il y a eu pas mal de découvertes intéressantes qui ont été faites. Je pense que Vasselet ou Armelin pourront vous en parler. Au point de vue des espèces invasives, on a réussi à caractériser du point de vue de son ADN la souche invasive de la colerpe, enfin d'une des colerpes invasives, pas la taxifolia, mais la racemosa plus récente. Hein. On a découvert de nouveaux gènes du développement, hein, des gènes OX et des choses comme ça. On a aussi assez récemment réussi à interpréter les stries de croissement dans le corail rouge, et les relier à des événements météo, à des changements de température, à des changements de assez importants qui ont pu avoir lieu dans le milieu, ce qui permet de remonter le temps sur quelques dizaines, voire quelques centaines d'années en arrière. Voilà, donc c'est à des niveaux très très différents. On a fait pas mal de découvertes quoi, dans ce laboratoire.
Ce thème de la biodiversité, donc, qui est une des préoccupations essentiel évidemment du CNRS. Cette biodiversité-là, vous, en tant que scientifique, comment vous l'abordez? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous la définissez?
Alors, vous avez raison que c'est un terme assez récent, hein. Il vient des années 80, c'est Wilson qui l'a inventé, et c'est un de ces mots qui a eu un succès absolument foudroyant sur la planète entière, dans toutes les langues, hein. On parle de biodiversité ou biodiversity. C'est assez difficile à donner une définition simple, à part diversité du vivant, qui est la plus simple et la plus exacte, mais qui est quand même assez insatisfaisante. Et on peut se demander à quoi ça sert, la biodiversité. Alors si vous demandez ça à un scientifique, il va être très embarrassé pour vous répondre, parce qu'en fait c'est une des grandes questions actuellement. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu plusieurs extinctions massives à la surface de la Terre, plusieurs fois, la diversité est tombée entre 1 à 10%, disons, de ce qu'elle était estimée être, hein, au cours de glaciations, d'éruptions volcaniques monstrueuses, de choses comme ça. Et à chaque fois, la vie est repartie, et justement en étant toujours aussi diverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la biodiversité a été reconstituée. Et alors, forcément, on se demande pourquoi, parce qu'on n'arrive pas à appréhender le fait de à quoi ça sert, ça, hein, qu'est-ce que c'est. À l'heure actuelle, c'est toujours une question. Vous avez des théories par rapport aux espèces invasives. Un milieu très diversifié va résister mieux qu'un milieu plus pauvre en espèces qu'un autre. Mais en fait, si c'était vrai, la mer Baltique devrait être complètement envahie parce qu'elle est très peu diverse. Hein, et elle est envahie aussi, mais pas plus que la Méditerranée, je veux dire. Donc on n'est pas arrivé encore véritablement à concevoir ça. Mais à côté de ça, là où on est coincé, c'est pour dire à quoi ça sert dans le fonctionnement d'un écosystème. Parce que c'est vrai que si on fait disparaître une espèce ou 10 espèces, on a l'impression que... Et ça arrive quand il y a des catastrophes, comme moi je me rappelle avoir vécu il y a pas mal d'années, hein, la catastrophe de la Manco Cadiz. C'est un pétrolier qui s'est échoué en Bretagne en 78. Bon, ça a tué, mais immédiatement, soit par toxicité, soit par englument, plein d'animaux. On s'est dit, jamais ça va repartir comme avant. Puis en définitive, ben on s'aperçoit que les écosystèmes, ils arrivent petit à petit à se reconstituer. Et puis ils ont vécu en attendant que la diversité réaugmente. Enfin, je veux dire, au point du fonctionnement, ça a l'air de pouvoir tourner sans véritablement la biodiversité. On ne sait pas comment elle intervient. En revanche, si on regarde ça d'un point de vue très, très humain, avec l'intérêt que l'homme a toujours, hein, sur la nature, à ce moment-là, la diversité, je dirais, c'est d'abord les paysages. La ressource, si on mange du poisson, si on a des huîtres, si on a toutes sortes de nourriture, c'est bien grâce à la biodiversité. D'ailleurs, entre parenthèses, on est quand même en marin au temps de la cueillette et de la chasse. Hein. On est au néolithique, hein, parce qu'on tape dans les stocks sauvages et on épuise les stocks. Hein. Bon, ça, c'est un exemple typique, hein, d'effondrement des stocks d'un poisson qui, non seulement a permis aux hommes de vivre, mais qui a créé et soutenu des civilisations entières, hein, que ce soit au Portugal ou en Norvège, sur une seule espèce. Bon, les stocks se sont totalement effondrés.
Alors, donc, à propos de biodiversité, est-ce que dans la baie de Marseille et dans la Méditerranée en général, est-ce que c'est une zone du monde qui est, question tout à fait naïve, est-ce que c'est une zone du monde où la biodiversité est particulièrement importante ?
En ce qui concerne la Méditerranée, elle a une histoire très très complexe. La Méditerranée est un reste de la Tétis, hein, cette mer qui faisait le tour de la Terre. Et ce qui explique les relations qu'il y a entre certaines plantes, par exemple de Méditerranée, les posidonies, les grands herbiers, on va retrouver ces plantes seulement au sud de l'Australie. Hein, le même genre, on le trouvera seulement au sud de l'Australie. Il y a des mollusques aussi qu'on trouve uniquement en Méditerranée, au sud de l'Australie. Donc ça donne, c'est des restes de cette grande mer qui faisait tout le tour de la Terre. Ensuite, ça s'est fermé, hein, du côté est, je résume, hein, je vais très très vite. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé du côté de ce qui est actuellement Gibraltar ? Eh bien, ça a bougé aussi là. Ça s'est fermé, ça s'est rouvert. Et donc, quand ça s'est fermé, la Méditerranée, alors là, les géologues se disputent un peu pour savoir si c'était un assèchement total ou pas. Bon, on suppose, nous, que ça ne devait pas être tout à fait complet. Mais enfin, il y a des espèces qui ont survécu à l'intérieur de ça. Puis ensuite, la Méditerranée a été remise en eau, on peut dire, par l'Atlantique. Et selon que les courants majeurs arrivaient du sud, c'est-à-dire des côtes d'Afrique, ou du nord, c'est-à-dire des côtes européennes, Portugal, Espagne, en fonction par exemple des glaciations, hein, les animaux qui pénétraient, les larves en particulier d'animaux qui pénétraient en Méditerranée, venaient soit du nord, soit des côtes d'Afrique. Et tout ça dans un melting pot qui explique la diversité absolument hallucinante de la Méditerranée à l'heure actuelle. Et le dernier grain de sable, si j'ose dire, c'est le canal de Suez. Depuis qu'il a été percé, il y a plusieurs centaines d'espèces qui sont passées, qui ont réussi à traverser en particulier le lac Amer, hein, qui est un lac très très salé, qui ont survécu à ce passage très difficile, hein, physiologiquement, hein, et qui ont pénétré la Méditerranée. Alors c'est évidemment le bassin Est, donc toutes les côtes Liban, Syrie, Israël, Turquie, qui sont les plus visitées, on va dire. Mais on commence à voir arriver dans le bassin occidental des espèces qui viennent donc de mer Rouge. Hein, les espèces dites lessepsiennes de monsieur de Lesseps qui a creusé, enfin qui était l'ingénieur responsable du creusement du canal.
Alors pour revenir au centre d'océanologie, on est passé tout à l'heure dans un long couloir au rez-de-chaussée, là devant à l'entrée du bâtiment, qui accueillait autrefois dans les années 50 un aquarium dont on a vu aussi le château d'eau, c'est ça, au-dessus,
voilà,
de la porte,
voilà, voilà.
Donc cet aquarium n'existe plus aujourd'hui, la station marine est un petit peu fatiguée, on a vu des signes de fatigue, ben, ne serait-ce que dans la façade, le bâtiment, etc. Et si vous aviez aujourd'hui tout pouvoir comme ça, quel serait votre rêve pour remettre un petit peu les sciences naturelles à l'ordre du jour dans une ville comme Marseille, où à la fois il y a beaucoup de ressources en termes de territoire, mais aussi un endroit où il y a beaucoup de chercheurs et une très ancienne tradition scientifique qui remonte à Pythéas et puis ensuite à des astronomes du Moyen-Âge, etc. Si vous aviez aujourd'hui un rêve comme ça de remettre le centre d'océanologie de façon un petit peu plus visible dans la ville, qu'est-ce que ce serait ? Comment vous imagineriez les choses, Jean-Pierre Ferral ?
C'est-à-dire, moi, je suis complètement d'accord avec votre analyse sur le potentiel et la tradition de Marseille dans ce domaine. Bah, je dirais qu'il faut regarder un peu ce qui se passe chez nos voisins. Hein. Les sciences marines, les sciences de la mer sont quelque chose qui sont considérés comme très important. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. On construit des laboratoires marins maintenant. Bon, là, à Valence, hein, pour ne pas aller trop loin, où on agrandit des laboratoires, comme en Suède, à Kristineberg, hein, qui a décuplé les volumes pour la recherche. Hein. Et l'idéal à Marseille, parce que ça n'existe pas, et d'ailleurs, en arrivant là, j'ai été très très étonné qu'il n'y ait pas ça, je pense qu'il serait bon d'avoir un laboratoire consacré à l'écologie côtière en particulier. D'abord, c'est la spécialité du CRU, et en plus, c'est ce qui est le plus en interface avec la société. Hein. Et associé à ce genre d'établissement, un aquarium public, mais moderne, hein, je veux dire, façon Océanopolis, pour donner un exemple français, ou les aquariums de Monterey ou de San Diego aux États-Unis, où on a des... où on a des bassins qui font à peu près 4 ou 5 étages de haut, où quand on est juste contre la vitre, on a l'impression d'être dans l'eau, quoi, hein, et ça, c'est quelque chose qui permet de drainer. Déjà, bon, c'est déjà au point de vue financier, c'est toujours intéressant. Un aquarium est toujours rentable. Enfin, il faut vraiment être un mauvais gestionnaire pour qu'un aquarium ne soit pas rentable. Et en plus, ça permet de drainer, je dirais, le grand public vers quelque chose de spectaculaire qui l'intéresserait, parce que je pense qu'il faudrait faire un aquarium méditerranéen. Des poissons clowns et des requins, il y en a partout. Je pense que le créneau à utiliser, c'est la Méditerranée, et donc de faire des reconstitutions de milieux, grandeur nature, dans des aquariums spectaculaires. Et donc, entre ce qui serait un laboratoire de recherche et un aquarium, qui est une sorte de centre de communication, un centre médiatique, qui servirait à la fois côté recherche et enseignement, pour faire des cours, pour faire des conférences, accueillir des congrès, et qui pourrait servir aussi côté grand public pour faire de la vulgarisation de bon niveau, drainer par exemple des plaisanciers qui ne savent pas quoi faire sur le port en attendant que leur bateau reparte, ou des choses comme ça. Et je pense que tout le monde s'y retrouverait, aussi bien les scientifiques parce qu'ils seraient installés dans des locaux modernes et près de la mer, que les autorités, parce que Marseille serait connue pour la bonne science qui est faite et pour son superbe aquarium. Et les touristes seraient ravis d'avoir quelque chose de spectaculaire qui leur permettrait à la fois de s'en mettre plein les yeux, si j'ose dire, et puis de s'instruire.
Ce centre qui remettrait la mer et l'écologie au cœur de la ville à Marseille, vous imagineriez qu'il soit où ? Est-ce que ici, vous trouvez que c'est un bon endroit, au bout de la pointe Malmousque, ou vous pensez à un autre, vous rêveriez d'un autre lieu ?
C'est-à-dire que d'un point de vue patrimonial, c'est vrai qu'en première analyse, on pourrait se dire il faut que ça soit la station marine d'Andoume, il faut la refaire, la moderniser. Pour moi, ça, c'est une bonne solution. Mais il n'y a pas la place de faire un aquarium moderne, comme je viens de décrire. Donc pour ça, il faut aller sur des terrains où on peut imaginer des surfaces et des volumes de cet acabit. Et donc, c'est plutôt du côté des ports qu'on pourrait voir ça, ou de l'autre côté, dans des villes, si elles voulaient accepter ça, comme Cassis ou comme La Ciotat ou que sais-je. Hein. She was haunted by the dead but friendly ghosts. As her helpers, they stayed as her hosts. But the reason why she kept them was a fear for herself. Yes, she was dangerous. She might drink some wine a single night, mess up the yard, steal a man, a rapist's love, and throw it away. And she became what she tried to avoid. She said, do not. Now as I say, darling, not as I do. See the way I play, kid, not do as I do. Do 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 do, not as I do, or you'll feel blue. That which no one knew was that her own love was gone. Stolen from her dead man long ago. Their son was treated bad by her ego and selfish thoughts. She cared less about him than about her own. He was soft, now his heart is seemingly strong. All I get is empty looks, no confirmation. All he was taught was through her and keep quiet. See, do now as I say, darling. Do now as I say, darling, not as I do. See the way I play, kid, not do as I do.
on continue notre promenade dans le com d'Andoum. Là, on est dans le bureau de Jean Vasselet. Alors, par la fenêtre, on a une vue assez splendide, donc plein ouest, sur la mer, surtout du bleu. Autour de vous, Jean Vasselet, il y a une carte du monde, une jolie carte du monde. Beaucoup de classeurs, de vieilles chemises, si je peux me permettre, elles ne sont pas toutes jeunes, ces chemises-là. Quelques photos, deux microscopes. Voilà, c'est un joli bureau de scientifiques comme on les imagine, comme ils sont dans les albums de Tintin. Et donc Jean Vasselet, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez fait l'ensemble de votre carrière ici, à la station marine d'Andoum. Vous êtes également un plongeur et un des pionniers des expérimentations qui ont lieu dans les années 70 des maisons sous la mer aux Bahamas. Et vous êtes surtout, avant tout, c'est la raison de ma présence ici avec vous, un spécialiste mondial des éponges. Vous avez fait dans ce domaine-là une découverte assez importante. Vous avez découvert des éponges carnivores.
Oui, normalement les éponges, ce sont des organismes filtreurs. Ça filtre l'eau et ça se nourrit à partir des bactéries qui sont contenues dans l'eau. Et en profondeur, dans les abysses, ce système est un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de bactéries. Et donc il faut filtrer beaucoup d'eau, dépenser beaucoup d'énergie pour recueillir une maigre ressource alimentaire. Donc certaines éponges continuent à filtrer dans les grandes profondeurs, mais d'autres, on ne savait pas comment ça marchait. Il y avait toute une famille, on connaissait 80 espèces d'éponges profondes. Et on ne savait pas, on ne voyait pas les canaux ordinaires chez les éponges, on ne voyait pas les orifices, on ne voyait pas le système de filtration. Et personne ne savait comment ça marchait. Et nous avons eu la chance d'en trouver une dans une grotte, dans la région de Marseille, où il y a beaucoup de grottes sous-marines, on pourra en parler ensuite. Et cette éponge appartenait à cette famille normalement profonde, et nous la trouvions à une vingtaine de mètres seulement dans la grotte. Donc on a pu l'étudier. Essayer de voir si l'absence de canaux, l'absence d'ouverture n'était pas due au fait qu'elle était en profondeur et quand on l'a remontée, elle souffrait énormément dans l'eau chaude, avec la vase, le sédiment, et si elle n'était pas très abîmée. Là, on a pu la fixer convenablement, la regarder au microscope, même l'étudier en laboratoire, et on s'est aperçu qu'elle n'avait pas du tout de système de filtration, donc en principe, ce n'était pas une éponge, et qu'elle mangeait des petits crustacés qu'elle attrapait grâce à un système de filaments et de petits crochets, semblables à du velcro. Alors ça, c'était tout à fait extraordinaire parce que les éponges sont caractérisées par ce système de filtration et là, il n'y avait pas le système de filtration. Ça a été une grosse surprise et ça a montré qu'une grande partie des éponges qu'on trouve en profondeur, il y a 80 espèces donc, qui étaient connues, ne sont pas des animaux filtreurs, mais réellement des carnivores.
Alors là, j'ai encore une question de néophyte à vous poser. Est-ce que vous pensez-vous que l'ensemble du monde vivant pourra un jour être classé parfaitement chaque espèce dans ces tiroirs et que ce classement est possible ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est un objectif important de la biologie, de la science, ou que c'est finalement pas ça le plus important, ce classement-là?
C'est un objectif important, mais c'est une chose qui est faite par l'homme et sur des choses naturelles. Et donc, c'est un système extrêmement artificiel, toujours. Alors, on essaie de le rendre de moins en moins artificiel, à essayer de retrouver quelle a été réellement la phylogénie, quels sont les ancêtres de chacun des animaux que nous voyons. Mais c'est qu'une approche qui est encore incomplète.
Et donc là, on est juste au-dessus, par la fenêtre, on voit donc la baie de Marseille. Est-ce que vous pourriez, comme ça, au pied levé, nous faire une petite liste de... bien sûr, j'imagine pas exhaustive, mais de l'ensemble de quelques espèces, de la faune et de la flore qui sont sous nos pieds quand on se promène sur la corniche. Ici, qu'est-ce qu'on a quand on se baigne à Malmousque?
On a des éponges, mais on a aussi surtout de l'herbier de Pousilonie. Hein. C'est quand même une chose très importante dans la baie de Marseille, qui est un peu en régression parce que l'eau a été davantage turbide. Donc, comme c'est un organisme, une plante photosynthétique, quand il n'y a pas trop de lumière, elle régresse. Il y a eu quelques problèmes. Et puis, il y a des fonds sédimentaires avec des mollusques, des crustacés et énormément de choses. Les éponges, c'est surtout, on les trouve surtout quand il y a des rochers. Sur le littoral marseillais, il y a quand même plus de rochers que de plages. Et sous les petits surplombs, on trouve pas mal d'éponges. Mais pas seulement l'éponge commerciale. Il y a en Méditerranée à peu près 500 espèces d'éponges différentes et là-dessus, il y en a seulement 4 ou 5 qui sont utilisées à des fins domestiques.
Cette découverte des éponges carnivores a été rendue possible par l'existence de grottes abyssales, de grottes froides, qui se trouvent donc sur, au Calanque, c'est ça, derrière les Calanques ?
Dans les Calanques, oui, et au Cap Canaille, près de La Ciotat.
Donc dans ces grottes froides, on trouve des espèces abyssales, bien que ces grottes ne soient situées qu'à 20 mètres en dessous de la mer.
On a travaillé pendant longtemps, hein, depuis les années 58-60, on a travaillé beaucoup sur les grottes sous-marines qui étaient autrefois inaccessibles, mais avec le scaphandre autonome, on a commencé à pouvoir y rentrer dedans et on s'est aperçu que, étant donné qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait pas donc de production photosynthétique, on se retrouvait un peu dans les mêmes conditions que dans les grandes profondeurs, où il y a la vie dépend de ce qui vient de la surface, ce qui tombe de la surface, où il y a une production très abondante. Dans les grottes, la vie au fond de la grotte dépend de ce qui vient de l'extérieur. Et s'il n'y a pas beaucoup de circulation d'eau, ce qui se passe dans les grottes à une seule entrée, il y a un déficit alimentaire très fort et donc des conditions alimentaires qui ressemblent un peu à celles des grandes profondeurs. Et nous avons trouvé effectivement des espèces qu'on ne connaissait qu'en profondeur et qui avaient pu s'établir dans les grottes. Mais on n'en trouvait que quelques-unes parce qu'il y a un facteur qui limitait beaucoup, c'était la température. Dans les grandes profondeurs de la Méditerranée, c'est relativement chaud, mais c'est quand même à 13 degrés toute l'année. Ce qui est relativement pas très très chaud quand même. Et dans les grottes, même dans le fond des grottes, la température monte jusqu'à 23, 24, même 25 degrés dans la région de Marseille en été. Et donc ces animaux abyssaux ne peuvent pas supporter ces températures-là et il y en avait très peu qui avaient pu s'établir. Et ce que nous avons trouvé, c'est principalement à La Ciotat, mais aussi dans les Calanques, des grottes qui descendaient. Et l'eau froide étant plus dense que l'eau chaude, ça faisait des espèces de poches d'eau froide qui restent à 13, 14 ou 15 degrés toute l'année, même au plus gros de l'été. Et là, donc, ces animaux, quelques espèces d'éponges, de bryozoaires, mais surtout d'éponges, ont pu s'établir et survivre, dont cette éponge carnivore qui doit vivre dans les grandes profondeurs en Méditerranée, mais qu'on n'a jamais trouvé d'ailleurs, parce qu'elle vit sous des surplombs à 2000, 3000 mètres de profondeur, et là, elle est toute petite, pour aller la trouver, c'est très difficile. Quand j'ai commencé à plonger dans la région de Marseille, en 1956, on s'est mis à travailler sur les grottes, et dans les grottes sous-marines, près de Agnolon en particulier, j'ai trouvé une éponge qui était très particulière, parce qu'elle avait un squelette calcaire additionnel. Les éponges, normalement, ont un squelette fait de petits corpuscules qu'on appelle les spicules, qui sont calcaires ou siliceux. Et celle-là avait un squelette massif qui était tout à fait semblable à celui des coraux. Et elle vivait uniquement dans les grottes. Et il s'est avéré que ces éponges à squelette semblable à coraux avaient autrefois construit des récifs comme les récifs coralliens actuels, mais avaient disparu. Et quelques-unes ont survécu, et survécu dans les grottes seulement. Et ça, c'était un des premiers spécimens qu'on trouvait, et qui était en quelque sorte un fossile vivant. Et ça a montré que dans les grottes sous-marines, après on est allé en chercher dans les régions tropicales, on a trouvé une quinzaine d'éponges comme ça, qui étaient des survivants de groupes qu'on croyait disparus, comme les stromatopores, les archéociates, etc., qu'on croyait disparus et qui avaient construit, qui avaient été de très importants constructeurs de récifs coralliens et donc de roches.
Donc si on lit bien dans la Méditerranée, si on arrive à lire un petit peu entre les lignes, par exemple dans les grottes sous-marines qu'on trouve à La Ciotat ou au Calanque, on trouve des histoires très anciennes. Et donc ces grottes sont un petit peu comme des conservatoires, c'est ça
voilà. Ça a servi de milieu conservateur pour des formes qu'on croyait disparues.
Des conservatoires naturels d'espèces ailleurs disparues. Voilà.
Et cette éponge s'appelle Petrobiona massiliana. C'est la pierre vivante marseillaise. C'est ça que ça veut dire le nom.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la science à Marseille? Est-ce que vous trouvez que la science a la place qu'elle mérite dans la ville? La station marine d'Andoume aujourd'hui est un petit peu menacée. J'aimerais savoir quel œil vous portez sur tout ça.
Oui, c'est dommage que la station marine soit menacée, parce qu'un centre océanographique à Lumigny, c'est quand même pas très loin de la mer, mais enfin, c'est pas au bord de mer. Et ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Les Marseillais ont l'habitude de s'adresser à nous pour les problèmes concernant la mer. Par exemple, quand il y a des méduses, c'est à la station marine qu'on téléphone. Hein. C'est pas à Lumini. Il faudrait changer beaucoup les habitudes des Marseillais pour que ce soit à Lumini que soit le centre de l'océanographie.
Alors, Joar Melin, par les fenêtres de ce bureau de la station marine d'Andoum, on aperçoit la baie de Marseille.
Oui, cette baie de Marseille, on a l'immense privilège d'y habiter, d'y travailler. Devant nous, il y a les Islettes, et puis le Frioul, puis mer en face, et puis Tiboulène de Mer, et puis de l'autre côté, l'archipel de Rio, merveilleux. Et c'est extraordinaire, Marseille, avec cette nature sauvage très près de nous. Alors sous l'eau, c'est juste au plus près, ce sont surtout des étendues de Posidonie, des herbiers de Posidonie qui sont encore bien présents dans le golfe de Marseille et en particulier devant Andoum. Ce sont ces grandes herbes qui s'étendent jusqu'à 25 mètres, disons. Très important pour l'équilibre des communautés. Et puis il y a des roches aussi plus loin, des roches avec des peuplements très colorés.
Joar Melin, vous avez fait l'ensemble de votre carrière ici au COM, anciennement station marine d'Andoum, en tant que chercheur du CNRS. Aujourd'hui vous êtes à la retraite, mais on vous trouve en général dans votre bureau. Alors ma question est simple, qu'est-ce que vous continuez à y faire?
Au cours de ma carrière, j'ai accumulé de nombreuses collections, des collections d'organismes que le grand public ne connaît pas. Ce sont des bryozoaires, c'est pourtant bien présent, très abondant sous l'eau. Et je continue de les exploiter, de les étudier pour décrire des espèces. J'étais encore sous l'eau hier à Monaco et pour vérifier certaines choses.
Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces collections?
Les collections, on parle beaucoup de biodiversité. Pour évaluer la biodiversité, il faut décrire des espèces, il faut en faire le catalogue. Et il y a encore beaucoup, beaucoup d'espèces, en particulier sous l'eau, à décrire.
Et c'est ce que vous faites?
C'est ce que je fais en ce moment. J'en ai mes armoires pleines et ma table aussi.
Vous avez passé un certain nombre d'années de votre vie à étudier le corail rouge.
Je serais tenté de dire que j'ai surtout admiré. Parce que le corail, c'est une passion. C'est beau et quand on y touche, on ne peut pas s'empêcher d'en être passionné. Je l'ai étudié, oui, peut-être moins que mes jeunes collègues actuellement. J'ai quand même fait une approche assez originale dans le temps. À la fin des années 60, j'ai mis un cadre avec des carreaux de pierre de cassis pour étudier la colonisation de ces communautés qui poussent sur les rochers. On voulait voir comment ce revêtement vivant s'établit, s'organise et se complexifie dans le temps. Alors j'avais mis ce cadre dans une grotte qui est au sud de l'île de Rio, dans un environnement où il y avait déjà du corail rouge. Et au bout de 10 ans à peu près, je me suis mis à photographier chaque carreau sous l'eau, de près, en macrophotographie, pour voir l'évolution justement de ce qui poussait. Il a poussé des éponges, il a poussé des bryozoaires, il a commencé à pousser des petites branches de corail rouge. Leur papa et leur maman étant sur les parois, juste à côté d'ailleurs. Et j'ai pu suivre comme ça la croissance de ces petites branches de corail que j'ai vues naître.
Ce qui à l'époque n'avait jamais été réalisé?
Non, pas vraiment. Et surtout, ça a servi de base après, de référence, puisque je les avais vues naître et j'avais les photographies de leur naissance en fin de compte. Quand il a fallu valider un petit peu ces anneaux de croissance que l'on a trouvés après dans la matrice organique du squelette. C'est un travail qui a été fait par Christian Marshall, qui a eu la bonne idée de faire des coupes dans le tronc de corail à la base et de regarder non pas le squelette calcaire, car le corail c'est ce qui fait sa valeur, un squelette en calcaire rouge, mais de décalcifier ce squelette et regarder sa matrice organique. Alors toutes les structures calcifiées que l'on a, nos os, nos dents, ou les otolithes des poissons, on en parlait tout à l'heure, ont une matrice organique. Cette matrice organique a révélé des stries de croissance et beaucoup plus abondantes que celles que l'on avait vues au préalable dans le squelette en calcaire. Voir du corail rouge à Marseille, hélas, il n'y a pas d'aquarium avec du corail rouge à Marseille. Même si on a quelques petits bacs dans notre centre d'océanologie de Marseille où on entretient du corail vivant, parfois, mais ça c'est uniquement pour des expérimentations. Un aquarium public, eh ben, non, on peut le regretter, mais il ne faut pas désespérer. On en aura un jour. Pour voir du corail rouge à Marseille, c'est très facile, eh ben, il faut plonger. Et ça, on peut le faire, on peut le voir quand on est plongeur, même quand on est plongeur lambda, hein, car le corail n'est pas profond à Marseille. C'est une grande chance. Ce n'est pas la Corse, il n'y a pas besoin de descendre profond. Marseille est quand même une place extraordinaire pour étudier le corail. Et c'est bien pour ça que Marseille a été une grande place pour la récolte du corail, ça depuis l'Antiquité. Hein. Puisque, quand même, il faut se mettre, mettons-nous, 2000 ans auparavant, quoi, même plus avant, puisque on a trouvé des restes de corail dans des tombes préhistoriques, c'est-à-dire datant de 2500, 3500 ans avant Jésus-Christ. Là, pour récolter le corail, on n'avait pas des scaphandres avec des mélanges hélium, oxygène. Hein. on traînait un filet au fond, ou on plongeait libre, puisque ça, c'était accessible à tout le monde. On plongeait libre sans rien, on allait s'accrocher, et à 5 mètres, 10 mètres de fond, on arrivait à accrocher quelques branches de corail. Bon, je vais vous raconter, si vous voulez, l'histoire de la controverse de Marseille. Il y a un militaire italien, un noble militaire, qui s'appelait Louis Ferdinand de Marcelli, qui était naturaliste, et il était beaucoup plus naturaliste que militaire d'ailleurs, et qui est venu d'Italie, d'abord à Montpellier. Alors là, il a rencontré divers savants, et il s'est renseigné, il a dit, bon, c'est à Marseille qu'il faut que je vienne. Il est venu à Marseille, et il a rencontré là un gros centre déjà d'exploitation du corail rouge et de transformation. Et il est sorti en mer avec des barques à voile, des corallines à voile, pour aller pêcher le corail rouge avec ce que l'on appelle la croix de Saint-André. Traîner au fond ces filets alourdis par des chaînes et des filets qui sont sur des barres lourdes. En ce temps-là, elles étaient en croix. Donc il a récolté du corail et il a eu la bonne idée de le mettre dans des jarres d'eau de mer, évidemment. Et il a attendu un moment et il a vu fleurir le corail avec des fleurs blanches. Quelle merveille, il s'est dit. J'ai la preuve que c'est bien un végétal. En mer, il avait amené avec lui un jeune garçon qui était le fils d'un médecin de Marseille, célèbre, Pessonnel, qui avait 15 ans à l'époque et qui a vu fleurir le corail lui aussi. Il l'a regardé de plus près et lui, il a eu la conviction que ce n'était pas des fleurs végétales, mais c'était ce qu'il appelait dans son texte, la lettre à l'académie qu'il a envoyée, des petits insectes. En ce temps-là, ça voulait dire que c'était bien animal, quoi. Des petits insectes qui se rétractaient dans l'horloge. Il n'a pas été pris au sérieux, parce qu'il y avait Réaumur, qui était le directeur de l'Académie des sciences, là-bas, et qui a dit non. Le mémoire que m'a établi M. de Marcigli est tout à fait convaincant, c'est bien un végétal. Alors il est parti travailler dans les Caraïbes, comme médecin, et puis là, il a envoyé une lettre à une société d'histoire naturelle anglaise. Ça a été lu par Bernard de Jussieu, qui était à Paris, un éminent savant aussi, et lui, il a compris que Pessonnel avait raison.
Alors dans le fond, qu'est-ce qui a permis à Jean-André Pessonnel au XVIIIe siècle, donc contre l'establishment, contre Réaumur et contre
le Marsigli, qui l'avait eu bien vivant, lui.
Qu'est-ce qui a permis à Jean-André Pessonnel d'établir que le corail était un animal et non pas un végétal?
Bon, le corail, quand ses polypes sont bien épanouis, est fleuri. On l'appelle, et encore maintenant, les corailleurs et les plongeurs disent que le corail est fleuri. C'est-à-dire que les polypes blancs, avec 8 tentacules, sont épanouis. Et si on touche les tentacules de ces polypes, ils se rétractent. Si on le regarde avec des yeux de Marsigli, avec l'idée que c'est un végétal, on se dit « les fleurs se fanent ». Si on le regarde avec les yeux de Pessonnel, de Jean-André Pessonnel, qui avait sa petite idée, c'est un animal qui se rétracte dans sa loge. Voilà. Et pour lui, la science avait un petit peu avancé. Il a fait l'assimilation avec les hydres d'eau douce, et avec les anémones de mer. Déjà, on commençait à savoir que c'était animal.
Et alors, il y a une autre différence qui permet d'établir que le corail fait partie du règne animal et non pas végétal, c'est le mode de production de son organisme.
Oui, c'est un producteur secondaire. Il ne peut pas accumuler de l'énergie uniquement avec le soleil, comme le font les plantes, comme le font les posidonies dont on vient de parler, qui sont si abondantes dans le golfe, ou toutes les algues.
Alors, où est sa source d'énergie?
Alors, sa source d'énergie, ce sont les polypes qui sont épanouis, qui piègent les particules alimentaires. C'est un carnivore. Hein. Un carnivore, quand il capte des petites proies vivantes, sinon il se nourrit de petites particules organiques. Cette idée de coralliculture, elle a germé à Monaco. Et l'association Monégas pour la protection de la nature a conçu des grottes artificielles pour le corail rouge. Alors, elle a eu deux types comme ça qui ont été immergés à entre 25, 30 mètres, près de 40 mètres de profondeur, dans un site où il y avait naturellement déjà un petit peu de corail rouge. Et des petites branches ont été, des petites colonies de corail rouge ont été fixées avec du mastic à l'intérieur de ces grottes artificielles. Ceci d'abord pour voir si le corail résistait bien à cette transplantation artificielle, s'il se reproduisait sur place. Et ça, dans l'attente, qui sait, hein, trouver la formule, l'hormone qui va booster la croissance du corail rouge. En tout cas, les résultats n'ont pas été négatifs. Hein. Le corail a survécu. Il est toujours vivant. Je l'ai visité il n'y a pas longtemps, à Monaco. Il a pondu. C'est-à-dire, il s'est reproduit sur place. Il y a des bébés corail qui se sont fixés autour des branches mères. Bon, il a poussé là-bas à la vitesse du corail rouge, c'est-à-dire lentement. Quant à Marseille, eh ben non, il a un programme extrêmement ambitieux de récifs artificiels, un programme qui est très avancé, puisque en principe, les premières immersions vont être faites à la fin 2006, avec plus de 30 000 m3 de récifs artificiels de modèles divers qui vont être immergés dans deux zones, entre le château d'If et Andoum. Une zone étant réservée en réserve, mise en réserve, et l'autre étant ouverte à la pêche, et principalement pour les pêcheurs professionnels d'ailleurs. Et c'est amusant de dire que les récifs artificiels sont organisés, les immeubles, disons, qui vont être mis en place, sont organisés en village, comme à Marseille. C'est lot d'immeubles reliés par des relais entre eux. Il y a plusieurs lots comme ça, des villages. Et c'est une conception qui est très, très intéressante, qui sera sûrement très, très bonne.
Et donc, ces récifs sont en béton ou en métal ou...
C'est du béton, essentiellement, avec aussi quelques éléments plus petits pour fixer toute la petite faune qui sert de nourriture aux poissons qui vont vivre là. Alors, pourquoi des récifs hein, dans la baie de Marseille? La baie de Marseille, c'est essentiellement des posidonies au bord. Mais ces posidonies ont beaucoup régressé quand même depuis quelques siècles, hein. Puisque Marseille est une ville industrielle, on peut dire. Avant, les herbiers descendaient jusqu'à, on peut dire sûrement, 37-38 mètres de profondeur. Mais ça, c'est il y a quelques siècles. Maintenant, c'est limité à 25 mètres. Ça a libéré un espace très grand, et cet espace est envahi par des sables, des vases, et tout le reste du golfe s'est occupé par des sables. Il y a très peu de roches. Amener des roches, et des roches très bien conçues, des roches artificielles, c'est-à-dire des appartements pour poissons, et ben ça va amener des poissons nobles. Un des gros habitants, hein, principal habitant, je suis sûr que ce sera le sar, les différentes espèces de sar. Il y aura la dorade, qui passera là en fonction des saisons, mais certaines se fixeront. Il y aura, ce sont des habitats rocheux, artificiels, mais avec des cavités, tout ça. Je pense que le chapon, qui est un poisson noble ô combien, un des meilleurs poissons qui existent, s'y établira, eh bien. Des mérous, pourquoi pas. Il y en a de plus en plus, grâce à leur protection avec le moratoire. Il y aura des langoustes, quasiment sûr. Je me souviens avoir plongé dans les années 60 sur des petites roches dans le golfe. Elles étaient bourrées de langoustes. Des homards, pourquoi pas. Des loups qui seront attirés parce qu'il y a certains récifs qui ont été conçus ici, justement, avec des filières dans les trois dimensions, dans la colonne d'eau, pour attirer ces poissons de plein eau.
Tous ces poissons et crustacés seront attirés par la nouvelle faune qui va se développer, se fixer autour de ces récifs artificiels.
En partie. Et puis ils vont s'en servir comme appartement.
Comme un milieu de protection. Les poissons aiment bien se mettre dans des
trous. Et manger sur ces grandes étendues de sable qui sont très riches en nourriture. Mais s'il n'y a pas les roches à côté, le poisson, il a besoin de quelque chose pour s'abriter.
Jean-Pierre Ferral me disait que dans le domaine de la pêche et de l'exploitation des fonds sous-marins, on était un peu au néolithique, c'est-à-dire qu'on n'était pas tellement arrivé au stade agricole où on cultive des espaces naturels, mais on était au stade du pillage, c'est-à-dire cueillette, quoi. Et est-ce que ces récifs artificiels inaugurent une première étape qui serait comme une agriculture sous-marine?
Bon, il y a deux voies. Il y a quand même, en effet, faire des récifs artificiels, c'est-à-dire créer des habitats particulièrement favorables à certaines espèces dans des endroits où il n'y a pas ces habitats, ceci pour concentrer du poisson et pas seulement le concentré, puisque là, il va s'établir à long terme. Hein. Un récif artificiel, c'est pour le long terme. C'est-à-dire que les populations vont s'établir là, faire des petits et être bien à l'abri, et avoir des gros reproducteurs qui vont produire beaucoup de petits, qui vont pouvoir être pêchés. Mais l'autre voie, c'est établir des aires marines protégées, des réserves. Et ça, bon, on le fait petit à petit. Il y en a sur la Côte Bleue, il y en a deux qui fonctionnent très bien sur la Côte Bleue, dans le parc marin de la Côte Bleue, à Carry et en face du Cap Couronne. À Marseille, il n'y en a toujours pas. C'est toujours en discussion. J'ai les dossiers depuis 20 ou 25 ans sur ma table. Ça n'avance pas et j'espère quand même que maintenant, avec le GIP, ça va avancer.
Alors, bien que la situation ne soit pas encore idéale sur Marseille, on voit quand même depuis une dizaine d'années un certain nombre d'initiatives qui se développent. Petit à petit, la question environnementale qui est de plus en plus prise en compte. Est-ce que vous imaginez un jour que Marseille puisse devenir une capitale en France de l'écologie avec ce territoire extraordinaire qui est là à portée de main, juste par les fenêtres, et puis par cette tradition scientifique de la ville?
Oui, surtout grâce au fond extraordinaire qu'on a à Marseille. L'archipel de Rioux, l'archipel au sens large, la côte des Calanques, il y a des fonds rocheux qui sont extraordinaires par leur topographie, par leur peuplement à l'heure actuelle. Et là, il y a un potentiel d'enrichissement extraordinaire. Moi, je fréquente beaucoup Port-Cros, le parc national de Port-Cros. J'y travaille depuis les années 60. Et j'ai vu ce que ça a donné en 45 ans hein, de protection, à quel niveau c'est actuellement. J'imagine ce que ça pourrait être dans l'archipel de Rioux, qui a une potentialité encore plus grande que Port-Cros. Ce serait formidable. Je ne perds pas espoir qu'il y ait quelque chose de très très bien qui s'établisse à Marseille.
Auriel Torrens, bonjour. Vous êtes un jeune doctorant en biologie marine. On est dans votre bureau. Là, il y a un VTT, c'est à vous ça?
Oui.
VTT, deux, trois ordinateurs, une loupe binoculaire, les stores par lesquels le vent du large t'engouffre, et puis la traditionnelle vue sur la baie de Marseille, comme tous les autres chercheurs ou presque du Centre d'Océanologie de Marseille. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
Je suis arrivé à Marseille avec un programme d'échange Erasmus pour travailler sur la biologie marine. Et après passer mon DEA, j'ai obtenu une bourse régionale pour travailler sur les corail rouges de Méditerranée. Donc maintenant je suis en fin de thèse et j'ai participé à quelques études qu'on mène ici dans les labos pour connaître un peu mieux cette espèce emblématique de Méditerranée. Je travaille sur la reproduction du corail rouge, donc comment cette espèce ici reproduit, les effets de changement climatique sur la reproduction, entre autres, et aussi sur la croissance de l'espèce.
Et vous travaillez sous la direction d'un autre catalan comme vous, qui est Kim Garabou.
Kim Garabou, oui, c'est mon directeur de thèse, qui est venu, après d'avoir fait sa thèse à Barcelone, il est parti aux États-Unis, et ensuite il est revenu en France pour refaire un post-doctorat, et ensuite bon, il a obtenu un poste au CNRS. Et pour venir à Marseille, moi j'ai contacté Kim et il m'a gentiment invité pour venir et ensuite c'est comme ça que je démarrais à Marseille. Moi je suis très content d'être à Marseille, la preuve c'est que ça fait déjà presque 6 ans que je suis à Marseille et bon, la ville, mis à part la ville que j'aime beaucoup pour sa facette multiculturelle, ben, on a en face de nous les Calanques. Et ces environnements, on a aussi la Corse. Et pour moi, c'est un cadre magnifique de travail. C'est une des principales raisons pour laquelle je suis resté ici. Parce que j'aime beaucoup la Méditerranée et j'aime travailler pour elle.
Vous faites aussi de la plongée, donc?
Oui. Je plonge depuis 7 ans à niveau loisir et depuis 3 ans à niveau professionnel. Parce que j'ai besoin de la plongée pour aller sous l'eau et étudier les corails.
Alors Marseille est plus belle au-dessus de la surface de l'eau ou en dessous de la surface de l'eau?
Alors, question difficile, mais je pense qu'il est belle en dessous de l'eau et au-dessus de l'eau, les deux. Dans la région de Marseille, on trouve beaucoup de grottes parce que c'est une région calcaire, donc on trouve beaucoup de grottes, beaucoup des animaux qui sont associés dans cette grotte-là, avec l'absence de lumière, etc. Et aussi, on trouve des magnifiques prairies de Posidonie, beaucoup de poissons, Et moi, peut-être le fond le plus beau que j'ai vu dans la région, dans la côte méditerranéenne française, c'était en Corse, à la réserve nature de Scandola, où là, la quantité de poissons, leur taille et aussi les espèces menacées qu'on trouve en quantité dans la réserve, je peux vous dire que ça vaut le coup de le voir.
Et vous pensez que ça vaudrait peut-être le coup de créer une réserve marine dans la baie de Marseille ?
Je pense, au moins pour ce qui me concerne sur les Gorées Rouges, qu'effectivement, il faudrait créer des sanctuaires pour garder en mémoire quelle taille les colonies de corail rouge peuvent atteindre, parce que dans la région marseillaise, il y a beaucoup de corail, mais sa taille elle est très 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 petite. Seulement on trouve des corails de grande taille dans les réserves comme Carilouet, comme la réserve de Scandola et la réserve de Banyuls. Je pense qu'il faudrait proposer des sanctuaires, mais où, quand et de quelle taille, ça, ben c'est, nous on participe à cette quête et sans doute j'espère que ça va se faire d'ici pas longtemps.
C'était Ville Nature, une série d'émissions consacrées à l'écologie à Marseille. Durant tout l'été, du 5 août au 9 septembre. Prochaine promenade, samedi 13h10 et rediffusion tous les mardis à 10h.